Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du football. Et dans cette édition du jour, eh bien, nous évoquerons 4 mois en Ligue 1 et puis s'en va. Nous évoquerons Silvinho, qui n'est plus l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, remercié hier soir par le club, alors que les dirigeants lyonnais lui cherchent un successeur. Le nom de Laurent Blanc serait une évidence. Serait-ce un bon choix ? Nous en parlerons bien sûr. Nous évoquerons aussi l'enfant prodigue Juninho. Pourra-t-il poursuivre sa mission de directeur sportif après l'échec de son protégé ? Les Bianconeri à nouveau au top de la Serie A grâce à leur victoire sur les Nerazzurri. La Juventus est-elle déjà en piste pour conquérir son 9e titre consécutif ? Les entraîneurs passent, le titre reste à Turin. Antoine Griezmann fait banquette au Barça. Le champion du monde n'a pas participé à la victoire sur Séville. Ce choix de l'entraîneur est-il inquiétant dans ce club qui a snobé le talent du Brésilien Coutinho ? De cela aussi, nous parlerons aujourd'hui, notamment avec Nabil Djellit. Bonjour Nabil.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Camarade de France Football, venu avec son camarade de France Football, venu avec Franck Simon. Vous êtes camarade, hein, je ne me trompe pas.
Oui, ouais, depuis une quinzaine d'années au moins.
Ah oui, au moins. Ah ouais, au moins. En tout cas, ici à Radio Foot, vous l'êtes toujours.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Étienne Moati, du même immeuble, mais pas de la même maison de l'équipe, bonjour.
Bonjour, c'est pas exactement le même étage, mais on n'est pas très loin quand même.
Ah, ouais, ouais,
ils sont c'est plus un tel près, plaisir. Vous êtes plus près du 7e ciel que nous.
Et vous n'êtes pas loin de nous, puisque vous êtes de l'autre côté du pont, l'autre côté de la Seine.
Vous donnez tous les secrets.
Rive droite, rive gauche, oui.
Si on veut tous nous repérer d'un coup, bah, c'est pas très compliqué.
Oui, mais nous, on est inoffensifs, nous, Nabil. Hugo Moissonnier, bonjour.
Bonjour, Annie, bonjour.
Avec
moi,
Hugo,
je
on est sur le même palier.
Famille, voilà, ah,
voilà, exactement.
Encore plus court, là, le voyage.
Laurent Salerno est là à la réalisation. David Finzel aussi est derrière la vitre. Radio Foot, c'est parti.
Ouh, enfin le match. On refait le match sur RTL.
Il avait une voix, il avait un style inimitable. Eugène Saccomanno s'est tué hier à l'âge de 83 ans, mais la voix de ce journaliste sportif restera dans nos oreilles. Il nous a bercé de ses commentaires de match, de ses tirades amusantes et de ses envolées lyriques, longtemps dans un poste radio et puis plus théâtralement dans le poste de télévision. Eugène Saccomanno, c'était le multiplex sur Europe 1 quand les matchs de foot étaient rares à la télé. Il fut des épopées des Verts et de celles des équipes de France, de Platini à Zidane, comme lors de la finale du 12 juillet 98.
Petit qui va marquer le troisième but, et troisième but, 3-0. Nous sommes, ils sont tous ensemble, la France entière est championne du monde de football, historique, inimaginable, 3-0, on les a assommés.
Alors, il y en a beaucoup d'autres comme ça hein, dans les archives radiophoniques. Et pourquoi nous rendons hommage, nous, ici à Radio Foot, sur RFI, à Eugène Saccomanno, aujourd'hui ? Eh bien, parce qu'il avait inventé en France ce qui est aujourd'hui la règle d'or dans le football, désormais le débat entre spécialistes. Inspiré par les Italiens, disait-il, il avait d'abord créé sur Europe 1 le match du lundi, avant de lancer sur RTL, puis à la télévision, ce que vous avez entendu tout à l'heure, on refait le match. Et de nombreux intervenants de Radio Foot, aujourd'hui, eh bien, comme Jean-Philippe Bouchard, Gilles Verdez, Hervé Penaud ou encore Xavier Paré avaient eu leur chance à On refait le match sur RTL. C'était un style inimitable, Eugène Saccomanno, Étienne Moati.
Oui, absolument inimitable, et même si certains ont essayé un petit peu de l'imiter, parce que là on entendait son commentaire pour la finale de la Coupe du Monde, mais avec Eugène, quand vous entendiez un match entre deux équipes mal classées de Ligue 1, vous aviez l'impression déjà d'assister à la finale de la Coupe du Monde. C'était tous les jours fête, c'était tous les jours dimanche avec lui, dans un style évidemment extrêmement particulier, marquant. On a l'impression que c'est ça le commentaire de sport à la radio, même s'il y a d'autres styles qui peuvent aussi exister, coexister. Il y en a certains ici qui le font très bien de manière très différente. Et puis, comme vous l'avez dit, c'était d'importer ces émissions de débat qui aujourd'hui paraissent totalement évidentes, mais qui, moi, en tout cas, au début de ma carrière, n'existaient pas et personne n'avait vraiment l'idée ni l'envie de considérer que c'était une chose qu'on devait faire à la radio ou à la télé.
Alors que maintenant, Nabil, on a l'impression, vous qui participez à des débats sur RFI, l'équipe du soir et dans d'autres médias, que finalement, c'est de cette manière-là qu'on traite le football aujourd'hui.
Oui, parce que le football appartient à tout le monde et tout le monde continue à en parler tout le temps. Donc finalement, on en parle
On se fait l'écho un peu de ce qui se passe dans la société.
Si on en parle, voilà, comme si monsieur et madame tout le monde parlait de football, puisque c'est une chose qui est universelle, qui appartient.
C'est une autre manière quand même d'apporter l'info, parce que malgré tout, dans ces débats, il y a aussi c'est des joutes aussi d'informations, d'arguments.
De décrypter notamment les coulisses, parce que c'est ça qui parfois donne un peu de sel et un peu de piment et permet aux gens de mieux comprendre les choses. Et c'est sûr que franchement, après moi je suis un petit peu plus jeune, mais moi je l'associe plus au multiplex en fait qu'au
talk
show.
Oui, comme Jacques Vendroux pour ce qui est de Radio France. Hein.
Voilà, parce qu'en fait nous quand on était gamins, on jouait au foot le samedi soir tard et les matchs étaient le samedi soir tard. Et il n'y avait pas, à ce moment-là, il n'y avait pas de diffusion télé de tous les matchs, mais on avait tous des clubs de cœur et tout. Et je me souviens qu'on avait un transistor. Et jusqu'à ce que la nuit tombe, bah, on écoutait en même temps. Ah, tiens, il y a eu un but à Laval. Est-ce que le Paris Saint-Germain a égalisé? Donc, c'est plus ça qui nous. Et puis, lui, par sa voix, son talent, moi, ce que je trouve, c'est que ce qui paraissait ennuyeux, lui, le rendait extraordinaire.
Mmh. Chaque match était une finale, comme disait Étienne. Hugo?
Oui, moi j'ai une question un peu naïve parce que j'ai toujours connu
sur
finalement
les
débats à la radio, à la télé, avant, après les matchs. Qu'est-ce qu'on faisait avant que ce style soit importé? Sans vous faire un jour, je me tourne un petit peu vers les personnes qui partagent cette table, qui ont connu peut-être un journalisme d'avant, journalisme sportif d'avant.
Franck,
voilà, vous me posez une colle. Hein. Moi, je suis un peu comme Nabil et comme Étienne, dans le sens où j'ai effectivement écouté, je l'ai écouté lui sur Europe numéro 1, avant que ça soit Europe 1, c'était Europe numéro 1, et effectivement on jouait au ballon et on avait un petit transistor à pile et on écoutait ses commentaires. Moi j'ai jamais su qu'il était d'origine marseillaise, je l'avais pas à l'oreille ça, ce repère-là. Et Gardois, je crois aussi.
Gardois, exactement. Mais il a commencé à Marseille.
Moi, je me souviens pas de table ronde, plutôt du côté de France Inter pour des tables rondes avec plusieurs journalistes qui débattaient avec Vendroux et tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une vraie dynamique. Et on se laissait emporter. Et puis ce que je juge aujourd'hui, moi vieux bonhomme comme théâtral, mais à l'époque lui il était le chantre de ça et c'était bien quoi. En fait on aimait bien, on se laissait complètement entraîner par ce type de récit parce que ça nous donnait
ça donnait l'image aussi.
L'image, le rythme, la vitesse et on a par sa description et c'est le métier aussi de commentateur hein, à la radio, c'est ça. On se projetait dans les matchs et je crois que c'est Étienne qui disait ça et ça pouvait être un petit match.
En fait, t'avais l'impression fantastique.
Ouais, ça devenait.
Pour répondre un peu à la question qui était posée, à cette époque-là, moi, j'étais déjà journaliste et on considérait peut-être un petit peu que là, les journalistes n'avaient pas à s'abaisser entre guillemets, donc à devenir un petit peu des supporters, à faire un petit peu
des
le show et le théâtre, et que il y avait un tout petit peu de mépris, par exemple, pour ce qui pouvait se faire en Italie ou en Espagne.
Ouais, c'est très vrai.
On faisait beaucoup et aujourd'hui, on peut se rendre compte que dans les plupart des émissions, il y a beaucoup de journalistes qui en font beaucoup.
On était plus dans le récit,
on était dans le récit, on était dans l'analyse, on était dans les reportages, dans le commentaire, ce qu'on fait toujours encore aujourd'hui. Mais il y avait ce volet-là qui était le football est un spectacle et on doit le traiter aussi comme un spectacle, qui était moins le cas en tout cas pour les journalistes.
Ouais. Je pense qu'on était plus aussi dans le récit parce qu'il y avait moins d'images en fait. Donc on était obligé de rester beaucoup plus collé à l'action et au récit de chaque déroulé de match et de ce qui se passait avant et après.
Voilà, en l'absence d'images, on n'a pas le choix. C'est ce qui était rare et faisait que voilà, on avait de temps en temps un match européen et là on a évoqué les multiplex, mais en fait il y avait aussi les soirées européennes. Moi j'étais super content de pouvoir suivre les matchs comme ça, j'étais collégien ou lycéen, comme on disait dans le poste.
Mais
pour revenir sur quelque chose d'important par rapport à ce cher disparu, c'est aussi la qualité. Et ça a été très très bien, je trouve, compté ce matin dans l'équipe par notre collègue Vincent Duluc. C'est parce que c'est quelqu'un qui savait très bien manier les mots, qui écrivait bien déjà à la base. C'est lui qui a donné, qui a permis en fait qu'existe un film comme Borsalino. Oui. C'est un de mes films préférés.
Adapté et j'ai mis de son roman oui, Bandit et Marteau.
J'ai mis des années en fait à savoir que ça venait de lui. C'était son travail. Mm-hmm. Donc c'est quelqu'un aussi qui savait bien écrire, bien s'exprimer, et ça donnait cette richesse. Et puis il avait cette faconde qui n'appartenait qu'à lui.
Un culte de la belle parole. Mais avait-il raconté? Il y a un très beau portrait aussi qui a été récupéré hein, dans l'équipe puisqu'il a été fait en 2015. Il avait été fasciné par les commentateurs de radio sud-américains, ceux qui font les fameux Gaulle, qui ont pu inspirer Bruno Salomon, hein, qui le dit aussi. Et donc lui aussi avait
Eric
pêché.
Mabrut sur RFI. Ouais.
C'est un
oui,
fondateur.
Pour ça, ça a été un précurseur parce que d'autres journalistes donc considéraient qu'on
n'osait
pas. Voilà, on considérait qu'on n'avait pas donc à faire les choses avec autant de passion et qu'on devait rester froid comme doit le rester un journaliste avec son
objectif. Voilà, exactement. Mais lui, peut-être son côté gardois et son côté provençal faisait qu'il avait osé faire comme les Argentins, comme les Brésiliens.
Il a créé son style et il a été un père fondateur certainement pour plusieurs générations de commentateurs, d'animateurs et tout. Et tant mieux, c'est-à-dire qu'il a suscité des vocations et que derrière, en fait, après lui, quand même, on sait que ça va continuer. Il y aura encore des gens qui
font. On avance dans ses pas finalement.
Ouais, hein. Tout à fait.
Merci donc, Gene Saccomanno. Merci de nous avoir montré la voie.
Et Robert Berich dans les 5-50 qui fait basculer ce derby.
Derby perdu face à l'ennemi juré dans les toutes dernières minutes. La goutte d'eau pour le président lyonnais Jean-Michel Aulas.
C'est déjà fini pour Silvinho. 4 mois après son arrivée à Lyon, le Brésilien a été écarté de son poste d'entraîneur.
Il n'aura pas survécu 24 heures à la défaite dans le derby, mais surtout au triste bilan de son équipe. L'OL de Silvinho, c'est une 14e place en championnat avec 9 points en 9 journées, 4 défaites, 2 victoires. Et c'était surtout un jeu que l'on avait du mal à décrypter. On va y revenir. En tout cas, hier soir, le communiqué de l'OL était très court. L'Olympique lyonnais a décidé de mettre en œuvre une procédure pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de monsieur Silvio Mendes Campos Junior. D'ailleurs, on apprend au passage son nom entier, un peu comme Pelé et Edson Arantes do Nascimento, n'est-ce pas? Cette décision, on peut pas dire qu'elle était surprenante, mais malgré tout, est-ce que vous la trouvez logique, Nabil?
Oui, je la trouve logique.
On a eu un gros débat en préparant cette émission.
Je sais que c'est pas dans la culture de Lyon de débarquer
Lyon,
subitement des entraîneurs, mais il y avait des paramètres qui faisait quand même craindre le pire. Je rappelle quand même que, pour moi, c'est une grosse erreur de Jean-Michel Aulas. Peut-être une de ses premières grosses erreurs. Il a quand même donné les clés du camion à Juninho, à Silvinho, alors qu'ils n'avaient pas le permis. Si je puis me permettre, pour moi, il y avait un novice de trop donc dans cette histoire. Ensuite, de manière très terre-à-terre, les résultats, eux, sont quand même catastrophiques. Il y a parfois la manière de jouer. Par exemple, en ce moment, Marseille joue plutôt bien. Les résultats ne sont pas bons. Mais Lyon perd et joue mal. Donc, et joue mal depuis 7 ou 8 journées. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Il y avait aussi un début de défiance dans le vestiaire, notamment de certains joueurs, Moussa Dembélé, Jeff Ranedalidaïd, Aouar, qui n'a pas trop compris pourquoi on l'avait sorti une fois, pourquoi on l'a remis. Et puis après, en termes de communication, même s'il avait une volonté sans faille, parce qu'il l'exprimait, Silvinho, je veux dire, on peut pas le remettre en question sur son implication, son investissement, son envie de bien faire, mais il semble que pour lui, la marche était trop haute.
Hugo?
Oui, Silvinho, il aura au moins intégré un club très très resserré, celui des entraîneurs écartés en cours de saison par Jean-Michel Aulas. 32 ans de présidence, seulement il n'avait eu recours à cette solution radicale qu'à 4 reprises avant Silvinho, Jean-Michel Aulas. 2 fois dans les années 80, Robert Nuzare, qu'on a connu en Afrique, Denis Papas, voilà, pour la prononciation correcte.
C'est pas son nom complet d'ailleurs.
Très bien, écoutez, ouais. On enquêtera comme pour Silvinho. Guy Stéphan dans les années 90 et Hubert Fourdier beaucoup plus récemment, 2014, arrivé en 2014, limogé en décembre 2015 et désormais Silvinho pour compléter ces années 2010. C'est dire la performance entre guillemets réussie par le Brésilien.
Franck Simon, est-ce que c'est uniquement le bilan sportif qu'on reproche pour vous à Silvinho?
Il y a un peu tout, mais forcément le sportif ouais. Prévaut. Le sportif prévaut. Il est venu pour du sportif. Il n'est pas venu pour autre chose. Alors on lui reproche ça, mais On pourrait aussi se retourner vers celui qui a choisi de mettre Juninho à cette place-là et donc permis à Juninho d'aller le chercher, en fait. Hein. C'est une responsabilité qui, je pense, est à partager. Elle est collégiale, voilà. Mais oui, sportivement, il a commencé avec quelques jolies pétarades et puis ça se termine en drame
après
absolu.
Des matchs de préparation très
mauvais, sauf les deux premiers matchs du
championnat. Les deux premiers matchs du championnat, je sais pas si l'émission avait déjà repris, je suis pas sûr, mais c'était
ils vont être champions de France.
Ouais, ils vont être champions de France,
c'est
vous allez
sûr
voir
que l'émission avait repris, ça avait repris. Franck,
oui, c'est vrai, la reprise au moment
de la reprise.
Avec ils battent Monaco à Monaco 3-0 et ils mettent 6-0 en tête à Angers.
C'est avec le 6-0, c'est avec le 3-0 est impressionnant. Bon, face à un Monaco qui est
arrivé. On savait pas encore que Monaco était.
Et à ce moment-là, vous reprenez les déclarations de certains, pas tout le monde. Il y avait encore des gens qui avaient un gros doute. Puis derrière, vous avez cette série terrible.
Étienne, surtout peut-être par rapport aux sportifs, c'est que Lyon ces dernières années est clairement l'équipe qui arrivait à peu près à être dans le sillage du Paris Saint-Germain. Même on se souvient, alors là, on appelle ça ni derby ni rien, mais en tout cas de ce match PSG-OL qui finalement régalait parce qu'il y avait une intensité, il y avait une théâtralité aussi.
Il
y avait du spectacle.
Du temps de Genesio, l'OL gagnait. Hein,
exactement. On a l'impression qu'on n'a pas retrouvé le challenger et cette équipe de Lyon, on le sait, a aussi besoin de d'être qualifiée en Ligue des Champions.
Si Lyon était dans le sillage du Paris Saint-Germain, c'était quand même un sillage lointain parce qu'ils n'ont jamais vraiment disputé le titre au
Paris Saint-Germain.
Ce qui est d'ailleurs logique parce que aujourd'hui, les moyens des deux clubs n'ont strictement rien à voir. Mais si Silvinho a été débarqué, et on a énuméré les entraîneurs qui ont été débarqués, il y en a eu très peu donc en cours de saison, mais ils avaient un bail plus important donc à la tête de l'équipe. Là, au bout de quelques semaines à peine, donc si Jean-Michel Aulas débarque Silvinho, c'est parce qu'il ne l'a pas choisi, tout simplement. Si c'était Jean-Michel Aulas qui avait choisi, qui avait nommé Silvinho, il serait toujours aujourd'hui l'entraîneur de Lyon, même avec le démarrage qu'il a fait en championnat.
Nabil, je connais
bien Jean-Michel Aulas. C'est quelqu'un qu'on peut critiquer sur beaucoup de choses, mais qui a beaucoup de respect pour le sportif.
Il lui aurait laissé combien de défaites
Le Lyon est quand même aujourd'hui toujours en course en Ligue des Champions avec 4 points en 2 matchs, donc c'est extrêmement important pour le club et en championnat. Rien n'est rédhibitoire aujourd'hui. On est à peine au début octobre, donc c'est simplement que Jean-Michel Aulas, qui est quelqu'un de très pragmatique, s'est rendu compte pas une erreur d'avoir enlevé Silvinho. Et ce qu'est en train de se dire Jean-Michel Aulas, c'est ce qu'a commencé à dire Nabil tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est impossible de nommer un directeur sportif qui n'a aucune expérience et un entraîneur qui n'a aucune expérience à la fois. Un des deux, c'est peut-être possible. Et encore, on va voir quel avenir va avoir Juninho. Mais pour le coup, il reprend complètement la main.
Peut-être, en lisant l'équipe aujourd'hui, on apprenait quand même beaucoup de choses. Il y a aussi peut-être eu une accumulation d'indices, comme quoi c'était pas l'entraîneur qu'il fallait à Lyon et qui a mené aussi à cette éviction assez rapide.
Oui, on a vu évidemment sur le jeu, tout le monde s'ennuyait en regardant les matchs de l'Olympique Lyonnais et on retrouvait pas donc ce qui était l'ADN de ce club-là,
notamment.
C'est-à-dire faire jouer quand même un peu des jeunes du club, avoir un système de jeu de possession où on essaie de mettre en danger l'adversaire. On avait un peu perdu tout ça et on s'ennuyait. Mais bon, on est quand même qu'au début octobre. On lui a pas non plus laissé beaucoup de temps. Mais c'est vrai que pourquoi est-ce que vous auriez du temps à partir du moment...
Ils sont à un point de la dernière place.
Oui, bah mais
oui,
ils sont
ont
pas
même
si loin.
Que
mais
le premier
ils sont
regard.
Pas 12 points du premier.
Voilà, ils sont pas si loin que ça non plus des places européennes. On est quand même qu'au tout début de championnat. Mais tout simplement, Jean-Michel Aulas est en train de se dire que c'est lui le boss et qu'il a voulu prendre un petit peu de recul et qu'à Lyon, c'est impossible que Jean-Michel Aulas prenne du recul.
Franck, nous qui avons connu Juninho comme le grand joueur de Lyon, le fameux qui marquait ses coups francs magiques, il s'est retrouvé lui aussi à essuyer les plâtres, on va dire, d'un poste de directeur sportif qu'il n'a jamais tenu. Est-ce que vous pensez qu'il ne va pas tenir ?
Totalement. Je dis pas qu'il va pas tenir. Hein. Je dis qu'effectivement, il s'est retrouvé à essuyer les plâtres parce que c'est une grosse première. C'était une grosse première pour lui. Mais alors, je vais quand même revenir sur les propos d'Étienne dans le sens où, même si le président Aulas n'a pas nommé l'entraîneur, enfin, il a fait en sorte de faire venir quelqu'un entre les deux.
Il l'a laissé,
donc il pouvait très bien... Effectivement, il avait dit je prends du recul et tout, mais il lui a laissé à un moment donné tellement de liberté, il fait venir quelqu'un sur lequel on n'a pas de repère comme numéro un, et du coup, ben voilà, ça.
On a bien vu que ça, il le regrettait déjà dans ses premières déclarations d'après match. Évidemment, il a mis sur la sellette Silvinho, mais d'abord Juninho en disant le sportif,
un gros coup de pression.
Le sportif, c'est la responsabilité de Juninho. Juninho passait derrière, donc pendant qu'il était en train de répondre aux questions, ne s'est même pas arrêté donc pour répondre à la presse. Je pense que Jean-Michel Aulas est en train de se rendre compte que Juninho n'a pour l'instant pas complètement l'étoffe pour être un directeur sportif d'un club
donc il est responsable. Donc on en revient à ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Après moi j'ai pris un raccourci, hein, Étienne. Hein. Mais pour moi le président, planté. Non, oui, il s'est planté. Bah, il s'est planté. Voilà, quand il est taulier et qu'il gère tout, normalement il y a pas ça.
Ou alors il s'est planté. Très peu. Il s'est planté sur ceux qu'il a choisi, parce que s'il avait choisi un autre profil, je sais pas, je dis n'importe quoi, Wenger peut-être. Mmh. Bah peut-être que Wenger aurait pu assumer les deux rôles, entraîneur et à la fois manager, par exemple.
Hugo. Peut-être.
Oui, ce qui est pas tout simplement une forme de démagogie. Juninho, c'était l'idole des supporters. Genesio, c'était la bête noire d'une partie du public lyonnais. On parlait de ces émissions de débat et qui se prolongent sur les réseaux sociaux. C'est un peu une démocratie d'opinion désormais. Le football, est-ce qu'il a pas tout simplement, plutôt que de suivre son flair qu'il avait, lui avait permis d'amener Lyon à certains sommets, mais il n'a pas cédé à la pression populaire.
Mais l'idée initiale de Jean-Michel Aulas, c'était donc de conserver Bruno Genesio et de nommer Juninho directeur sportif. Et il pensait en effet, et là pour le coup c'était un bien peu joué. De populisme, de faire venir l'idole du club, celui qui a été le meilleur joueur de l'histoire de l'OL, pour calmer les supporters, et tout en conservant Genesio. Mais la fin de saison n'a pas permis à Jean-Michel Aulas de conserver Genesio, parce qu'il y avait une rupture qui était trop forte, et les objectifs en tout cas n'avaient pas tous été atteints.
Après, il pouvait changer de logiciel et aussi dire que c'était peut-être une fin de cycle avec Genesio, mais peut-être prendre un entraîneur, pourquoi pas étranger, parce que c'est jamais quasiment arrivé du côté de Lyon, mais avec un background, avec de l'expérience. C'est ce qui a un peu court-circuité ce début de saison, c'est que Silvinho, il sera peut-être un bon entraîneur, mais ailleurs.
Ouais. Si vous prenez, il n'avait pas beaucoup Benitez, d'expérience numéro 1, voilà, mais il était numéro 2 depuis 2011.
Voilà. Donc, si vous prenez Raphaël Benitez, par exemple, je veux dire, le choix aurait été également salué, et c'est quelqu'un qui a une expérience en Angleterre, en Italie, en Espagne. Financièrement, c'était possible pour l'OL. Moi, ce qui me surprend, c'est pas Juninho dans cette histoire. Après Juninho, on verra. Comme Zubizarreta, on fera le bilan dans 2 ou 3 ans, s'il est encore là. Ce qui me surprend, c'est le choix de Silvinho. C'est ça qui est le plus surprenant pour une équipe comme Lyon, qu'on donne à un entraîneur en apprentissage.
Mais alors,
je sais pas.
S'il veut, on peut lui conseiller des très bons entraîneurs africains. Jean-Michel Aulas, voilà. Non mais si nous écoute,
si
gourre avec un Brésilien, on peut lui conseiller des Africains. Il y a beaucoup d'Africains de qualité qui pourraient très bien et qui sont francophones, qui feraient parfaitement l'affaire. Malheureusement, on les regarde pas, on les écoute pas, ils n'existent pas dans le football français.
Quel entraîneur,
c'est quand même dommage d'aller chercher un Brésilien.
Quel entraîneur aujourd'hui du top 16, parce que Lyon l'année dernière, c'était dans les 16 meilleures équipes européenne, alors plus près de la 16e place que de la première. Quelle équipe aujourd'hui européenne est capable de nommer un entraîneur qui a passé sa carrière à être pour l'instant numéro 2, qui n'a jamais eu aucune expérience en Europe, qui n'a, alors effectivement, il a joué dans des grands clubs, il n'y a pas de souci, mais Solskjaer, il a joué dans des grands clubs, Thierry Henry, il a joué dans des grands clubs, et c'est pas pour autant que ça a marché du premier coup. Quel grand club européen aurait pu nommer Silvinho?
Une question, Étienne, comment expliquer la performance, on va dire, de Leipzig au Lyon au milieu de semaine, entre deux défaites, avait remporté son match par 2-0 en Ligue des Champions?
Bon, on a évoqué le jeu assez ennuyeux de Lyon depuis que Silvinho en est l'entraîneur, donc c'était plus facile face à une équipe joueuse comme Leipzig qui avait le ballon, qui en plus, en effet, par le biais de son avançante, a raté 3 ou 4 occasions franches, mais Lyon était plus à l'aise donc face à Leipzig sans avoir le ballon et en contrant, mais c'est une situation que vous pouvez
répéter. Des erreurs de défense énormes.
Exactement, mais c'est une situation que vous pouvez pas répéter en championnat sur toute la saison, où en effet une équipe comme Lyon avec son effectif et son budget est censée quand même dominer la plupart des équipes de Ligue 1.
Ils sont arrivés un peu en donneur de leçons sans leur manquer de respect. Silvinho qui nous répète qu'il va inculquer l'état d'esprit des vainqueurs et la mentalité de la gagne. Bon, ok, on a vu, ça fait que perdre. Et puis Juninho, moi je suis désolé, sa communication quand il arrive et il démonte Lucas Touzard en nous expliquant qu'ils vont jouer en 4-3-3, finalement ils ont fini en 3-5-2, et qu'en 4-3-3 Lucas Touzard il a pas de niveau alors que c'est un actif du club, même s'il est pas bon, vous estimez qu'il est pas bon, c'est votre bon droit, mais si vous voulez le vendre derrière, à qui vous allez le vendre en expliquant en conférence de presse à tout le monde qu'il est nul? Je trouve qu'ils ont aussi fait des erreurs de communication.
Mmh. Et il peut perdre beaucoup dans cette histoire aussi, Juninho, quoi. Mmh. Perdre par rapport à son espace vital, par rapport à son poste.
Alors qui pour lui succéder si c'était un entraîneur français, par exemple?
On sait tout ce qu'il
y a. Il y a des noms qui circulent, Hugo.
Oui, celui qui revient ces dernières heures, c'est surtout celui de Laurent Blanc, donc au poste d'entraîneur. Pour succéder à Silvinho, pas à Juninho, à voir. Si d'aventure Blanc devenait l'entraîneur de l'OL, comment il cohabiterait avec Juninho? Laurent Blanc, on connaît le joueur, on connaît aussi l'entraîneur. Il a entraîné deux clubs en France à chaque fois. Il a été champion. Il avait brisé la domination lyonnaise dans les années 2000 en Ligue 1 en remportant le titre avec Bordeaux en 2009. Et puis trois autres titres de champion 2014, 2015, 2016 avec le PSG. Avec le PSG, il a même remporté tous les titres nationaux. Avec la meilleure équipe, certes, mais il est pour beaucoup le meilleur entraîneur du PSG version qatarienne. Ça peut se débattre, mais il n'empêche que la régularité était là. Le style de jeu aussi, c'est peut-être ce qui pourrait faire la différence en faveur du technicien de 53 ans, qui a également entraîné l'équipe de France à une période difficile. C'est un peu le point noir, entre gros guillemets, de sa carrière d'entraîneur, avec cet euro qui s'est un peu terminé en eau de boudin en 2012.
Etienne,
quand on fait cette énumération, on ne comprend pas comment Laurent Blanc peut ne pas avoir de club depuis aussi longtemps, parce que je suis assez d'accord.
Il y a quelques explications.
Club ou sélection.
Oui, il y a des explications. Il y a toujours des explications. Il ne doit pas savoir si bien se vendre que ça. Il doit aussi
avoir beaucoup d'exigences.
Il est peut-être un petit peu cher.
Moi, je crois qu'aujourd'hui, les exigences de Laurent Blanc ont beaucoup baissé. C'est vrai qu'il en avait beaucoup en termes de club. Donc, quand il a été remercié du Paris Saint-Germain, je pense qu'aujourd'hui, il a révisé un petit peu ses ambitions à la baisse. Mais comme ça vient d'être dit, il coche absolument toutes les cases pour pouvoir être l'entraîneur d'une équipe qui joue quand même la Ligue des Champions comme Lyon. Et aujourd'hui, en plus, l'intérêt, c'est que Jean-Louis Gasset est de nouveau donc disponible.
Et Franck Passy aussi.
Mais c'est un bras droit qui sait être numéro 1.
Et donc, a priori, il y a une possibilité.
C'est aussi l'ancien entraîneur Gasset de Saint-Etienne.
Oui, mais ça, il y en a eu beaucoup entre les deux clubs, finalement.
Ils vont faire des échanges.
S'il y a un ticket de Laurent Blanc avec Jean-Louis Gasset qui viendrait prendre Lyon, je pense que dans l'état aujourd'hui où est l'OL, ce serait une bonne chose pour le club.
Je vois plus peut-être Franck Passy également, avec qui il pourrait travailler, qui est du côté de Marseille et qui touche encore ses sous d'indemnité monégasque. Mais moi, je pense surtout, évidemment, il répond à tous les critères, mais c'est surtout savoir parler à ce groupe, en fait, parce qu'on se rend compte que c'est un groupe qui est inconstant. La saison dernière avec Genesio, c'est difficile.
C'est effectivement la marque de Lyon depuis quelques temps.
Et la clé, c'est certainement celui qui aura la légitimité pour arriver à faire passer. C'est un message à faire passer, parce que footballistiquement, si on les met en ordre de marche de manière assez cohérente, il y a de quoi faire d'énormes choses avec ce groupe lyonnais. Même si, je le rappelle, et ça a été sous-estimé, ils ont quand même perdu Fekir, Mendy et Ndombele. Mais je trouve ce qui est important, c'est de trouver le manager qui est capable de faire passer le message à ce groupe.
Franck, un petit mot.
Ouais, il faut un père fouettard. Voilà. Vaïd, il est déjà pris au Maroc.
Mais
Blanc était allé là-bas, puis ça a pas été.
Si c'est pourtant, un père fouettard, c'est pas du tout le profil de Laurent Blanc.
Mais je veux dire, dans le sens où, quand tu dois reprendre en main un groupe, à un moment donné, il faut aussi poser des bases.
Mourinho aussi.
Voilà. Faut pas non plus le total laisser aller. Moi, je pense effectivement, c'est quelqu'un qui correspondrait bien, puis pourrait faire du bien à ce club.
Après, il y a Arsène Wenger aussi qui, je le rappelle. Non, mais ça a l'air de rien.
Mais alors là, Arsène Wenger et Juninho, ça risque de pas coller.
Non, mais justement, vous faites un strike, je veux dire, même avec Laurent Blanc.
Ah, vous envoyez les deux,
Valse. Non, mais vous envoyez pas Valse et Juninho directement, mais je veux dire, vous pouvez réorganiser peut-être à terme. Si vous prenez Laurent Blanc ou Wenger, la question de Juninho va se poser.
Eh ben, on verra ça dans les prochaines heures, puisque hier, on se disait déjà que Silvino resterait pas très longtemps, et je crois que on n'avait pas fini l'émission, que déjà, ça sentait le roussi. Donc, on verra si déjà, ça sent quelque chose pour Laurent Blanc. On continue.
Pjanic, Ronaldo Bentancourt, avec ses ballons de Pipita, et but!
Higuaín! Il ruggito del Pipita si alza nel cielo di Milano.
Et c'est fini, c'est terminé. La Juve s'impose. La Juve, seule équipe invaincue en championnat cette saison. La Juve reprend le leadership de la Serie A.
Pipita, c'est Higuaín pour les Italiens. Et la logique semble donc revenue en Italie, puisque la Juventus de Pipita a pris dimanche soir les rênes du calcio avec un point d'avance sur son poursuivant. Son poursuivant, c'est l'Inter Milan, détrôné après avoir perdu donc le 236e derby d'Italie face au Bianconeri octuple champion en titre de la Serie A. Et les hommes de Mauricio Sarri se sont imposés grâce à Paolo Dybala donc et à Higuaín. Score 2-1, Nerazzurri qui avait obtenu un pénalty transformé par Lautaro Martinez. Une victoire difficile pour la Juventus, Franck, ou quand même obtenue avec, disons, la volonté de gagner, et notamment emmenée par Cristiano Ronaldo, qui ne désiste jamais.
Je trouve que c'est ça, en fait, en ce début de saison, la Juventus. Avec ou sans lui, parce qu'ils ont aussi, aussi été gagner des matchs à l'extérieur, à Brescia notamment, et quelques journées de ça, sans Cristiano. Mm-hmm. Voilà. Et c'est une équipe, voilà, qui marche, qui a ça, qui, ça fait partie, comme il dit Nabil, et bien ce mot-là, ça fait partie de leur logiciel.
Il s'y connaît en informatique, Nabil.
Absolument. Ça, et on a vu au journal, hein, il répare toutes les...
En football aussi, un petit peu. En informatique plus.
Ouais. Mon bouton préféré, c'est échappe.
Vous avez vu que sur les gros matchs, que ça soit le Napoli, où ils s'étaient imposés 4-3 vraiment difficilement, ils avaient mené, ils s'étaient fait rejoindre. Il y a eu déjà plusieurs matchs où la Juve s'est fait vraiment secouer. C'est-à-dire, c'est pas la Juve non plus qui écrase tout, mais c'est une Juve pas encore. C'était le premier gros rendez-vous pour l'Inter. Et voilà, ils ont essayé. Et
l'Inter qui était en tête pour être invaincu jusqu'à présent en Europe.
Mais c'est pas spectaculaire, hein, l'Inter, Hugo, cette saison, mais ça gagnait jusqu'à présent.
Bah, c'est du comté.
C'est du comté. D'ailleurs, le projet de l'Inter, c'est un petit peu de refaire ce qui avait permis à la Juve de se relancer au début des années 2010, avec Conte sur le banc et puis Marotta comme tête pensante dans leur organigramme. Pour revenir sur la Juve, ce qui est quand même assez fou quand on pense aux ressources en termes d'effectifs de ce club, c'est que Dybala et Higuaín, qui sont vraiment les hommes en forme, étaient plutôt poussés vers la sortie cet été. Quand on pense qu'un Rabiot peut encore émerger d'un peu nulle part. Là, il est en difficulté, mais il y a, en termes d'effectifs, les autres clubs
partent
trop loin par rapport à cette...
Je pense que l'effectif, il est encore plus fort qu'il ne l'était avant. C'est vrai que ces joueurs qu'on vient de citer, t'es pas parti pour être titulaire, donc avec la Juve, ils le sont d'ailleurs pas forcément. Quand vous regardez donc l'effectif des 25 joueurs donc qui composent à peu près l'effectif de la Juve, et par rapport à ceux de l'Inter, il y a quand même un écart important. J'ai du mal à penser que sur la durée, l'Inter puisse rivaliser en championnat avec la Juve. Ils sont en train de se mettre en place tranquillement, et puis de toute manière, quel que soit, je dirais, l'entraîneur sur le banc aujourd'hui, vous avez un tel fond de jeu à la Juve, un tel logiciel, comme dirait Nabil Djelit,
on va en parler, toutes les équipes avec des failles comme à la Juve, je vous laisse vous emballer.
Justement, moi j'avais envie de parler aussi de ces deux entraîneurs qui viennent d'arriver sur le banc des deux équipes. On a Antonio Conte qui vient donc de débarquer à l'Inter. Il arrive aussi de Chelsea, mais il s'était pris, lui, une année sabbatique. Et puis Mauricio Sarri, qui arrive donc à la Juve, lui, directement de Chelsea. D'ailleurs, il a amené Higuaín, hein, il l'aime bien,
il le traîne partout.
Oui, de Naples, en passant par Chelsea. En tout cas, écoutons l'ancien entraîneur de Naples donc, et de Chelsea. Il se savait très attendu pour ce gros choc, lui qui donc a entraîné si longuement Naples et qui se retrouve maintenant au grand club de Turin.
Vous savez, je suis habitué à vivre avec le scepticisme autour de moi, parce que je suis arrivé à Empoli en provenance de la Serie C, et puis je suis arrivé à Naples en provenance d'Empoli. Je suis allé à Chelsea, mais je venais de Naples. Donc j'ai toujours été celui qui devait prouver bien plus comparé aux autres, en ayant commencé ma carrière tout en bas. Alors vous savez, je pense que c'est plutôt normal. Le scepticisme à mon égard a qui plus est été amplifié en Italie, car j'étais l'opposant le plus direct à la Juventus. Je suis habitué à tout ça. Maintenant, après ce bon résultat, ici, à l'Inter, je suis heureux pour les supporters, parce que je sais que c'est un match qui leur tenait à cœur.
Nabil, on l'entend bien Tsari dire prouver bien plus. Il doit prouver bien plus.
Oui, parce qu'il y a toujours.
Déjà, il doit au moins gagner le championnat, puisque ça fait 8 ans qu'il le gagne.
Oui, évidemment. Après, je pense que leur objectif, c'est un peu comme Manchester City, si je peux me permettre. Même si, évidemment, être champion d'Italie, il faut. C'est des compétiteurs, ils seront à fond sur les deux tableaux. Et Étienne l'a bien dit, ils ont un effectif qui s'est amélioré, et ils pourront jouer sur les deux tableaux. Moi, je les attends en Ligue des Champions. Même si, et ça, c'est la chance de championnat d'Italie. On parlait tout à l'heure de Lyon qui est incapable de faire le match avec le Paris Saint-Germain. Saint-Germain. Alors effectivement, c'est peut-être pas les mêmes moyens, même si Lyon a 300 millions d'euros de budget, mais cette saison quand même en Italie, certainement la Juventus de Turin va devenir champion, encore que, mais vous avez des vrais matchs, vous avez eu avance Inter-Juve, vous avez eu la chance d'avoir un Naples-Juve extraordinaire, je veux dire, ils se régalent, je veux dire, ils sont de retour, et ça c'est aussi la chance aujourd'hui de cette Serie A, c'est aussi des entraîneurs, de la tactique, parce que ce match Inter-Juve, c'était pas que Ronaldo contre Lukaku ou Ronaldo contre Lautaro Martinez, c'était aussi et surtout Sarri face à Conte, le 3-5-2 de Conte, parce que quand vous regardez l'Inter, on parle souvent d'entraîneur, là on parlait de Silvio, mais lui il est arrivé, mais sa patte, on la voit tout de suite. Mm-hmm. En 3-5-2, des milieux qui n'arrêtent pas de faire des courses intenses pour créer de la profondeur, et puis de l'autre côté, un petit peu de pragmatisme du côté de Sarri, parce qu'il est intelligent et il sait qu'il y a Cristiano Ronaldo dans son effectif, même si le collectif prime sur l'individuel avec ce genre de coach, et ben il réorganise et en 4-3-1-2 et il oublie son 4-3-3 avec des circuits préférentiels. Ben voilà, c'est que du régal.
Franck,
Il y a pas longtemps là, j'ai eu la chance de commenter le Napoli, mm-hmm. Que je trouve franchement en deçà de ce qu'ils nous ont montré les dernières saisons.
Mais et du coup, je pense quand même, en deçà.
Je pense, oui. Ben voilà, ça se voit déjà au classement, mais même sur la scène européenne, c'est pas. Bon, ils ont battu Liverpool, mais c'est pas hyper, c'est pas transcendant, ouais. Hein, d'accord. Et à côté de ça, vous avez l'Inter. Alors bon, voilà, ils se sont fait accrocher, mais ils perdent que d'un but. Ils font pas non plus un sale match.
Ils ont perdu Sensi très vite et ça leur a coûté cher.
Ça leur coûte et très. 30 minutes.
Ouais.
30 minutes. Et vous avez derrière, il y a l'Inter, mais une équipe dont je parlais il y a quelques semaines, vous vous souvenez, de l'Atalanta Bergame. Mm-hmm. Alors on dit, ouais, ils ont fait une super saison l'an dernier, c'est non, terminé.
Ça fait plusieurs saisons qui sont pas mal.
Ouais, mais ils sont en Ligue des Champions eux aussi, ils sont très propres, ils ont été battre la Roma. Là, ils enchaînent avec encore une victoire. Alors ils battent une équipe faible, hein, Lecce. Mm-hmm. Mais il y a un fond de jeu, il se passe vraiment quelque chose à l'Atalanta. Vous savez, peut-être que ça peut être eux, encore une fois, l'équipe surprise.
Ceux qui vont chercher.
Ouais, parce que l'Inter finalement. Il y a pas de surprise. Alors t'as Lukaku, t'as Sensi, t'as des mecs comme ça.
Sanchez qui est encore opérationnel.
Ouais, Sanchez qui s'est fait l'autre fois expulsé à la Sampdoria.
Alexis Sanchez.
Oui, Alexis Sanchez. Mais c'est pas. Je trouve que ça ressemble pas au Napoli qui justement était en capacité de faire la lutte.
Nabil, juste une dernière question sur ce thème. Vous disiez qu'il y avait une faille dans le logiciel à la Juve. C'est quoi?
Non, mais je cherche la petite bête. Mais de là,
il a cherché, il a pas trouvé. En fait. Il réfléchissait tout le temps qu'on parlait. Il y a une faille, mais laquelle?
J'allais m'exprimer.
Comme il dit au Sénégal.
Non, mais ils ont perdu Chiellini, qui est quand même un peu l'âme. De cette équipe qui est un leader franchement incroyable. Il y a le De Ligt, il a une saison à très haut niveau, on connaît son potentiel.
De Ligt, pardon. De Ligt, ouais. De l'Ajax.
Et c'est pas la lumière encore. Pour l'instant, c'est pas le meilleur. Voilà. Mais il est moyen en première partie de saison. Il a le temps de progresser, puis surtout il a la chance d'en avoir un entraîneur fantastique. Donc voilà. Après peut-être Rabiot. Donc
Nabil,
vous voulez parler de Rabiot, Étienne?
Nabil va réfléchir. Nabil va réfléchir. La semaine prochaine, il vient avec la faille de la Juve. Il vous le promet.
Voilà, il donne la réponse la semaine prochaine.
Mais notez bien ce que j'ai dit, parce que si De Ligt se déchire en Ligue des Champions, bah Étienne, tu devras me payer un verre.
Bon, on verra ça, un verre d'eau, bien sûr.
Le Barça prend donc la deuxième place de la Liga à deux longueurs du leader, le Real Madrid.
Alors on pense parler de Adrien Rabiot qui est resté sur le banc, tout comme Dembélé tout à l'heure. Et bien là, celui qui reste sur le banc ce week-end, c'était Grisou, notre Grisou, Antoine Griezmann, le champion du monde avec les Bleus en Russie, l'homme de Didier et Deschamps. Il n'a pas joué le dernier match du FC Barcelone remporté au Camp Nou donc par les Blaugrana sur le score de 4-0 contre Séville. Le banc après avoir été sorti, on s'en souvient, en Ligue des Champions la semaine dernière contre l'Inter, et il était sorti Griezmann à la 60e minute, c'est toujours Ousmane Dembélé qui, dans ces cas-là, remplace le numéro 7 des Bleus. Alors écoutons le défenseur de cette équipe de Barcelone, Clément Lenglet, qui d'ailleurs ne jouait pas, hein, je crois qu'il était suspendu ou blessé. En tout cas, pour lui, il n'y a pas de problème pour son camarade au Barça et chez les Bleus.
C'est quelqu'un qui vient d'arriver, donc forcément le Barça, c'est un club qui joue un petit peu différemment des autres clubs, avec un jeu de position qui n'était pas forcément le cas à l'Atlético par le passé pour lui. Ensuite, il a quand même mis 3 buts. Je crois que c'est le deuxième meilleur buteur du club, même si ça vient de commencer. Donc c'est quand même quelque chose d'assez positif. Il travaille énormément aussi pour l'équipe. C'est un joueur qui a évolué beaucoup en deuxième attaquant à l'Atlético et là qui est plus sur un côté. Il nous aide beaucoup par son talent, par son effort défensif qu'il fait à chaque match, parce que c'est un joueur qui sacrifie énormément pour l'équipe et il nous aide beaucoup, beaucoup grâce à ça. Donc moi, en tout cas, après c'est mon avis personnel, mais je trouve qu'il n'y a pas de cas Antoine Griezmann comme vous pouvez essayer de me le faire dire.
Il n'y a pas de cas Griezmann, selon vous, Étienne Moati ?
Il n'y a pas de cas Griezmann parce que bon, Barcelone l'a acheté 120 millions d'euros. Ils savent qui est Antoine Griezmann.
Ils en ont acheté d'autres chers, le Barça.
Oui, mais bon.
On pense à Coutinho, bien sûr.
Coutinho n'avait pas la cote en Espagne à Antoine Griezmann.
Ah bah, ils l'ont voulu pourtant. Ils l'ont cherché deux mercatos. Oui,
Antoine Griezmann, il a prouvé en Espagne. Et c'est une vraie star, Antoine Griezmann, en Espagne, plus qu'en France encore. Hein, et donc, c'est un joueur absolument majeur de la Liga. Donc, ils savent quand même un tout petit peu ce qu'ils font. Maintenant, il y a quand même quelque chose que dit Clément Lenglet dans sa déclaration, c'est qu'Antoine Griezmann, c'est un deuxième attaquant. C'est comme ça qu'il jouait à l'Atlético. En équipe de France, c'est pas non plus un joueur de couloir, hein, Antoine Griezmann. Évidemment, à Barcelone, c'est pas lui qui décide, c'est surtout Messi. Et qu'il y a des situations donc que Messi ne veut pas. C'est-à-dire que Antoine Griezmann vienne dans le cœur du jeu, comme il peut le faire en équipe de France, pour créer
enfin,
un
il voulait
peu...
pas lui tout court, en fait.
En tout cas, il préférait quelqu'un d'autre. Il ne se posait pas clairement donc à l'avenue d'Antoine Griezmann.
Mais quand
il y a eu l'option, comme il y a eu l'option Neymar, c'est sûr que évidemment Lionel Messi préférait que ce soit le Brésilien qui revienne à Barcelone.
Hugo.
Oui, d'ailleurs, le seul match de référence pour l'instant de Griezmann avec le Barça, c'était contre une autre équipe de Séville. Là, il avait joué le Betis en tout début de championnat et il n'y avait pas Messi. Et il avait vraiment les clés du camion, comme on dit. Il avait mis deux buts et il avait également délivré une passe décisive. Donc,
il veut la place de Messi, c'est ça ?
Il y a un petit souci. En tout cas, il y a un petit souci tactique. En tout cas, il est plus libre quand on lui laisse l'axe et un peu les clés de l'attaque, ce qui n'est pas possible au Barça. Juste pour revenir aussi sur Messi, les déclarations de Messi mi-septembre quand il dit on va l'écouter, c'est ça?
Alors, on va pas écouter celle de septembre, allez-y sur septembre,
je le connais très peu, alors je pense qu'il veut dire que je le connais très peu personnellement, mais Étienne vient de le rappeler, Griezmann c'est pas un joueur qui vient du Brésil dont on aurait vu 2-3 vidéos sur YouTube. Là Messi l'accueille comme si
c'était éventuellement
un joueur qui devait faire ses preuves. Il est champion du monde, Griezmann, il a joué une finale de Ligue des Champions et clairement, ouais, c'est dans le monde du football moderne et sa communication, souvent très travaillée, c'est une réelle déclaration de défiance.
Alors la semaine dernière, c'était juste après le match justement de Ligue des Champions, une question sur Messi, à Messi, sur Griezmann.
Obviamente no tenemos ningún problema y de a poquito nos vamos soltando. Hay buena relación con todo en el vestuario, eso unido.
On le reconnaît bien, Messi. Donc, ningún problema, dit-il. Il n'y a aucun problème avec Antoine Griezmann. Mais... Petit à petit, nous apprenons à nous connaître. Il y a une bonne relation avec l'équipe et vous avez entendu, todos unidos, on est tous unis. Vous êtes convaincu, Franck?
Pas du tout.
Je vois Franck froncer les sourcils.
Je trouve que c'est un garçon qui est totalement sacrifié, quoi.
Sacrifié par Messi ou par Valverde par le Barça?
Avec Messi, il a très peu joué en vérité. Il a très peu joué. On lui demande de s'intégrer, de s'adapter à un système. Il fait les efforts. Alors quand il va un peu sur le côté, on lui met dans l'axe. Quand il s'agit de jouer court, on lui met dans la profondeur. Je vous dis ça parce que je les ai vus, les matchs. Je les ai vus.
Oui.
Je l'aurais pas cru sinon.
Aussi
donc du coup, je me dis, en fait, ils font ça, mais ils font ça pourquoi? Pour le décourager, pour le mettre à l'épreuve. On sait que c'est un grand travailleur. On sait que c'est un garçon qui a toute cette capacité-là. Pourquoi les autres se comportent comme ça? Alors du coup, je me dis, la clé, ouais, forcément, c'est Messi. Faut que Messi l'adoube comme Messi a adoubé un petit gars de 16 ans qui s'appelle Ansu Fati. Sauf que lui, il est de la Masia, donc voilà, c'est comme son gamin.
Ouais.
Mais pour Griezou, en revanche, on est en train de le rendre dingue, quoi. Là. Il faut quand même respecter ce qu'il
peut
apporter.
Ouais, mais lui, il est pas bon. Excuse-moi, Franck. J'entends.
Il est pas bon. Qui est pas
mais
bon?
Mais sa com, elle est pas bonne à Griezmann, là, lui courir derrière. Oh, Messi, il me parle pas. C'est un champion, un peu d'orgueil. Je veux dire, il prépare le maté.
La femme de
Messi est sympa. Il y a un moment, il faut aussi avoir
un peu de caractère. Tu veux qu'il dise quoi? Tu veux qu'il l'insulte?
La réflexion, là, j'entends, il peut très bien être adoubé, mais moi, je pense qu'il y a quand même un problème de réflexion sportive, même si c'est un joueur fantastique, plus intelligent que la moyenne, certainement.
Ah, ça, certainement.
Un des joueurs les plus intelligents aujourd'hui dans le football international. S'il continue à être ailier gauche, c'est pas du tout la même histoire. Parce que, Il y a des situations.
Quand mais Nabil, surtout, là, il est resté sur le banc et il a signé au moins pour être titulaire. Peut-être pas pour être sur le côté gauche ou
ça va être encore plus compliqué,
mais...
vous savez pourquoi?
Dites-moi.
Parce que, bon, là, il y a de la chance. Parce qu'Ousmane Dembélé a oublié son cerveau la dernière fois. Parce qu'il fait.
Il a pris un carton rouge.
Voilà, il a pris un carton rouge, il enchaîne les blessures. Mais l'équation, elle n'est plus à 2, elle est à 3. Elle est à 3, et même si c'est Griezmann. Parce que, il y a Griezmann, il y a Dembélé Ousmane, et puis le petit Fatih, on n'est pas à l'abri que ça soit un phénomène qui est en train d'éclore. Et que lui, en revanche, dans le vestiaire, il soit apprécié pour X et Y. Alors, je dis pas qu'ils vont mettre Griezmann sur le banc, mais pour lui, ça va être encore plus compliqué que ce qu'on pouvait penser.
Il y a des fois, voilà.
Etienne, est-ce que finalement, il les encombre Griezmann au Barça?
On verra ça quand même au cours de la saison, parce que là, donc, à vous écouter, on est en train d'enterrer Antoine Griezmann, qui est un joueur.
C'est pas
donc,
nous qui l'enterrons. On n'a pas dit ça, Etienne.
Il y a quand même donc un principe de réalité. Même à Barcelone, Antoine Griezmann, c'est un joueur qui est un joueur décisif dans les matchs importants. C'est un joueur qui fait énormément d'efforts.
Oui, mais moi, je vous parlais de Coutinho, parce que Coutinho, quand il était à Liverpool, il était décisif. Et là, on l'a pas reconnu du côté du Barça. Il a jamais vraiment semblé être intégré.
Il y avait sans doute
une responsabilité. Très bon au Bayern.
Il y avait sans doute une responsabilité. Du Barça, il y avait une responsabilité de Coutinho parce qu'il a été quand même beaucoup aligné. Il a été très décevant, donc la plupart du temps où il était aligné. Antoine Griezmann, on est quand même aussi au début du mois d'octobre. C'est un joueur extrêmement intelligent. Nabil l'a dit, je suis d'accord avec lui. C'est peut-être le joueur européen pour moi le plus intelligent qui est capable le plus de s'adapter aux autres. Mmh. Donc je lui fais plutôt confiance, même si c'est difficile de réussir à s'adapter à Suarez et à Messi. Et finir par être titulaire avec cette équipe et les emmener donc là où ils veulent aller en Ligue des Champions.
Eh bien, on verra ça et on suivra ça. De toute façon, Antoine Griezmann, pour l'instant, il est avec les Bleus et on va le retrouver du côté de l'Islande en fin de semaine.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
La fin de la disgrâce pour Michel Platini, en tout cas la fin de sa mise à l'écart, édictée par la FIFA. On s'en souvient, à la fin de l'année 2015, il avait été interdit de toute activité dans le monde du football. Alors on se souvient de cette tourmente au sein de la FIFA et qui avait emporté un peu tous ceux qui entouraient Sepp Blatter, y compris donc Michel Platini. La star du football français des années 80, ce fameux grand joueur de Nancy, de Saint-Etienne, de la Juventus aussi, est-ce qu'il a fini sa traversée du désert, Étienne Moati, vous qui aussi connaissez Jean-Michel Aulas et connaissez aussi Michel Platini, elle est où son oasis?
Bah déjà, sa suspension prend fin, donc il peut commencer à faire quelque chose, parce que jusque-là...
On l'entreapercevait dans des stades, des fois.
Oui, mais il n'avait pas de possibilité matérielle donc de briguer un quelconque mandat. Aujourd'hui, il y a peu de possibilités finalement qui s'ouvrent à lui, parce que ce qui était son ambition, c'était de devenir président de la FIFA, bah c'est dans 4 ans, et c'est quand même long, 4 ans. Et puis l'UEFA, il y a Alexander Seferin qui est en place, et je crois pas que Michel Platini veuille essayer de rivaliser avec lui. Après, il reste la Fédération française. C'est dans un an les élections à la Fédération française. Noël Le Graët a priori ne briguera pas un nouveau mandat, donc il a 77 ans et il y a une possibilité, mais puisque je connais Jean-Michel Aulas, comme vous venez de le souligner, bah c'est son ambition à lui d'être président de la Fédération française. Donc Michel Platini, s'il veut reprendre ce poste-là, il va falloir qu'il se mette au travail, il va falloir qu'il fasse tous les efforts, et c'est pas toujours ce qu'il préfère faire.
Franck, est-ce qu'il a encore du crédit, Michel Platini?
Là, vous me posez une colle. Hein. Si vous m'avez parlé du joueur, je vous dirais.
Non, je crois qu'on en a tous pour lui, pour le joueur, mais.
Pourquoi il aurait plus de crédit?
Bah, le dirigeant est quand même associé, même s'il faut être évidemment très
prudent.
Faire prudent et faire attention et regarder, analyser les choses dans le détail. Il est quand même associé à ces scandales qui ont clairement entaché
à la période
la FIFA et la fin de règne de Sepp Blatter.
Ça n'a pas empêché certains des dirigeants que vous venez de citer d'avoir une carrière après,
ou de rebondir
pendant ces épisodes-là. Moi, j'ose croire je sais pas ce qu'en pense Étienne, qui connaît beaucoup mieux le dossier que moi, en tout cas. Mais j'espère pour lui, effectivement, qu'il en a. Et je pense qu'il en a. Il en a toujours, mais y compris dans le football français.
Nabil, je parlais de crédit parce que on a l'impression que c'est une question d'honneur pour Michel Platini.
Oui, parce que c'est un compétiteur incroyable et il a été, voilà, coupé dans son élan parce qu'on sait très bien.
Très vexé, en fait, de voir qu'on le mettait en cause.
Moi,
et...
Voilà, après, pour répondre à la question du crédit, moi, je pense qu'en France, on lui doit bien ça. Je suis désolé. Alors, évidemment, on peut toujours discuter moralement, mais quand on voit ce qu'il a pu apporter en tant que joueur, en tant même que dirigeant, je veux dire France 98, il était là,
il a quand même
il a été président français de l'UEFA, il s'est retrouvé dans une tourmente. Je vois pas pourquoi on laisserait pas une deuxième chance.
On y reviendra sur ce sujet, bien entendu, surtout si Michel Platini eh bien, révèle ce qu'il voudrait faire prochainement. Merci à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission et à Laurent Salerno. Et à demain.